On est en train de faire une étude biblique dans le livre de Galates. On est rendu au chapitre 3. Ce soir, on va voir les versets 14 à 18. Pour faire un petit récapitulatif, le livre de Galates, c'est un livre que l'apôtre Paul écrit aux églises de la Galatie. La Galatie, c'est un territoire, puis il y avait beaucoup d'églises de fondées dans ce territoire-là. C'est l'apôtre Paul qui avait évangélisé avec son équipe pour fonder ces églises-là. Les gens avaient tous reçu Jésus comme leur sauveur. C'était des gens nés de nouveau. Ils avaient reçu l'Esprit. L'Esprit se manifestait dans l'église. Les gens étaient sauvés. Puis ces églises-là étaient formées de gens païens et juifs. Puis un petit peu avec le temps, le monde ça discute, blablabla, puis les juifs qui étaient dans cette église-là commençaient à vouloir imposer aux païens de se faire circoncire pour être sauvés et de pratiquer la loi de Moïse, dans le but d'être sauvés. Là, l'apôtre Paul, il a envoyé une lettre, puis c'était comme, tu vois, dans cette... On est rendu au chapitre 3, puis il parle encore avec l'idée de la loi versus la grâce, ce que Jésus a accompli à la croix, puis il commençait à démêler ça avec toutes sortes d'arguments, toutes sortes de points. On est au chapitre 3, rendu au verset 14 à 18, il parle encore de cela, pour essayer de raisonner les gens de la Galatie, pour lui dire de lâcher cette idée-là, que le salut n'est pas en retournant la loi, le salut par la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a accompli ce qu'il fallait. Puis là, on a vu dans le dernier verset qu'on a vu, la dernière étude, le dernier verset que nous avons vu disait que les païens recevaient la promesse de la bénédiction d'Abraham, le Saint-Esprit, à cause que le Christ est devenu malédiction pour nous. Fait que quand tu comprends et tu approfondis ces idées-là, puis tu réalises, hey, j'étais sous la malédiction à cause des péchés que la loi nous dit. La loi condamne sur toutes sortes de points. Bon, le fait de ne pas avoir accompli la loi à 100%, tous les Juifs étaient sous une malédiction. Puis là, ils ont accepté Jésus pour être pardonnés. Puis là, il voulait retourner à la loi pour être sauvé. Puis là, il lui dit, n'oubliez pas là que si on est sauvé aujourd'hui, c'est parce que dans la loi, il y avait une malédiction qui tombait à celui qui était cloué à la croix. Puis le Messie a accepté d'être cloué à la croix. Il a accepté de devenir malédiction pour prendre la malédiction qui était sur nous. Ça veut dire que les gens qui étaient sous la loi pensaient gagner le ciel par la loi, mais chaque fois qu'ils désobéissaient, ils étaient de plus en plus des gens maudits par Dieu. Parce que la loi les avait rendus maudits à cause, dans l'engagement de la loi, ça disait, « Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi. » Il n'y a pas un être humain normalement constitué qui pouvait accomplir tout cela. Aucun être humain. Tout le monde a péché à quelque part, puis c'est pour ça que Paul le répète partout dans toutes ses lettres. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il fallait que quelqu'un vienne d'ailleurs, un non-maudit, un béni, qui vienne d'ailleurs, pour qu'accomplir la loi, la vivre parfaitement sans péché, puis là, il pouvait prendre les conséquences du péché sur lui à notre place. C'est ça que Jésus a fait. Il a pris les conséquences du péché. Il est devenu péché pour nous. Il est devenu aussi maudit pour nous à notre place pour qu'on reçoive la bénédiction que lui devait hériter. C'est ce qu'on va voir ce soir. Dans le verset qu'on avait vu dans Galates 3, 14, il dit « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » C'est ça que dans ce passage-là, juste le verset avant, il dit « Christ est devenu une malédiction pour nous afin qu'on reçoive la bénédiction d'Abraham. » On va comprendre ce soir dans l'explication que quand que Dieu a dit qu'il bénirait la descendance d'Abraham, il ne parlait pas de bénir les gens. C'est de bénir sa postérité. Puis pas n'importe qui, sa postérité qui parle d'un seul individu qui était pour être de sa postérité, qui devait hériter cette bénédiction, c'est Christ. Donc la bénédiction de la, dans le fait de recevoir le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle naître de nouveau dans le Nouveau Testament, c'était dû à la promesse faite à Abraham, c'est ça qu'on vient de regarder. Christ est devenu maudit afin qu'on reçoive la bénédiction d'Abraham. Puis l'effet que ça a fait en nous, c'est qu'on a reçu par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Une bénédiction de recevoir le Saint-Esprit qui aurait été impossible pour nous parce qu'on était des pécheurs. Puis là, est-ce que la loi qui a été donné 400 ans plus tard, parce que ça, cette promesse-là a été faite à Abraham, puis la loi, elle, est arrivée 400 ans plus tard. Est-ce que la loi qui est arrivée 400 ans plus tard était pour contrecarrer la promesse d'Abraham? Parce que Dieu a fait la promesse qu'il y aura une bénédiction qui coulera à travers d'Abraham dans sa postérité. Là, Dieu, après ça, il a instauré la loi 400 ans plus tard. Est-ce que cette loi-là était pour contrecarrer cette promesse-là? C'est ce qu'on va regarder ce soir. La loi donnée à Moïse devenait-elle le moyen d'obtenir le salut? Parce que là, c'était une loi qui semblait promettre le salut. Mais Dieu avait mis cela dans le but d'éprouver les cœurs pour voir est-ce que les gens chercheraient à se justifier eux-mêmes ou à devenir des héritiers de la promesse par la foi. Parce que Dieu avait déjà déclaré que le salut serait par la foi. Il avait dit ça à Abraham avant que la loi vienne. Fait que tous ceux qui voulaient vraiment être sauvés, il fallait qu'ils marchent dans la foi d'Abraham. Voyez-vous? Puis là, on a vu plusieurs arguments à date, mais il y en a encore des bons ce soir. Paul, il démontre que même parmi les hommes, là, c'est là qu'on est rendu dans Galates, au chapitre 3, le verset 15, que même parmi les hommes, lorsqu'on fait des papiers officiels, les gens vont les respecter, puis ça peut pas être annulé. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 3, 15. Il dit, « Frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien qu'elle est faite par un homme, n'est annulée par personne, puis personne n'y ajoute. Que ce soit un testament, que ce soit un contrat de vente d'une maison, normalement, là, s'il n'y a pas d'erreur dedans, là, ça va être respecté. Quand tu fais un contrat avec quelqu'un, que ce soit un contrat pour bâtir quelque chose, n'importe quel contrat des hommes, un contrat fait par des hommes et respecté par les hommes. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans Galates 3,15. C'est pas à cause qu'il y a des croches. Oui, c'est vrai qu'il y a des croches qui peuvent essayer de trouver des erreurs dans le contrat pour essayer de ne pas payer. Ça se peut. Mais en général, les contrats sont respectés. Dans la Bible, on voit des exemples de ça, que dans ce temps-là, dans le temps des Juifs, surtout dans le 2000 ans, la parole qu'ils prononçaient avec quelqu'un, une poignée de main même avec quelqu'un, ça comptait. Même ici, là, 100 ans, c'était de même. Ils se vendaient des propriétés juste avec une poignée de main. La parole que le monde disait, il avait confiance, puis on respectait les choses qui étaient mentionnées. Puis au niveau des paroles, tout ça, dans ce temps-là, un simple serment fait devant Dieu, c'est une garantie fiable. Le monde avait à craindre de Dieu dans ce temps-là. Puis quand il faisait un serment avec quelqu'un, il respectait leurs paroles. On voit ça dans Hébreux chapitre 6, le verset 16. Ça nous dit, « Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. » Ils jurent par Dieu, dans l'Ancien, là on parle dans le temps de Jésus, puis c'était dans l'histoire de l'Ancien Testament, c'était de même. Il jurait par Dieu, puis le serment qu'il faisait devant Dieu, il s'engageait un l'autre devant Dieu, est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Il avait juste à faire un serment, je suis devant Dieu, on est devant Dieu, puis on dit les choses, puis c'était déclaré comme des paroles vraies, puis il n'y a pas question de changer. Ça réglait les problèmes, puis ça mettait à jour, le monde avait une parole. Même si c'est des humains, Aujourd'hui, c'est rendu un peu différent. La méchanceté de l'homme se développe, puis il n'y a plus rien qui est respecté. Ils vont faire des contrats, ça dépend, puis il va y avoir des avocats qui sont engagés juste pour essayer de trouver les erreurs dans le contrat, pour modifier les affaires, pour ne pas payer. Il y a du monde croche aujourd'hui. Mais il y a un point là-dedans que l'apôtre Paul veut nous amener en parlant du fait que quand il y a un contrat par des humains, c'est respecté. Puis même encore plus une coche plus forte que ça, quand on parle des ordres royaux, comme les rois qui faisaient un ordre, qui faisaient un décret, ils ordonnaient quelque chose. Puis dans ce temps-là, ils prenaient le bail puis ils scellaient une déclaration quelconque. Puis il n'y a personne qui pouvait révoquer ce qui avait été scellé là. Ça devait se faire comme ça avait été dit. C'était de même dans ce temps-là. On voit ça dans le livre d'Esther, le verset 8, le chapitre 8, verset 8. Il y avait eu un conflit, puis là, ils ont fait écrire quelque chose par le roi. Puis il dit, donc là, je vais vous lire juste un bout-là. Il dit, « Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Ça veut dire que c'est un décret signé par un homme. Puis il n'y a personne dans tout ce pays-là qui pouvait faire le contraire de ce que le roi avait décrété. C'est un peu la même chose que Trump il fait aux États-Unis quand il signe des décrets. Il décrète en tant que président des États-Unis, il pose des décrets, puis il veut passer ses lois, puis sauf qu'il y a d'autres lois qu'il peut protéger, puis que le monde font appel à la Cour suprême pour essayer de renverser. Aujourd'hui, c'est de même, mais dans ce temps-là, les choses pouvaient pas être évoquées. Il n'y avait pas de cause suprême. Quand une chose était promise ou annoncée ou déclarée comme un décret avec le sceau du roi, c'était respecté, puis il fallait que ça se fasse. Ce que je veux en venir, c'est imaginer si des contrats humains comme cela étaient respectés puis accomplis tels que c'était fait, puis le monde ne changeait pas ça, il ne cherchait pas à changer cela, c'était respecté puis c'était suivi à la lettre, testament, contrat, n'importe quoi. Imaginez les promesses faite à Abraham par Dieu. Le Dieu qui change point. Si les choses déclarées par les humains, ça change pas, c'est émis par écrit, ça va s'accomplir. Imaginez les promesses que Dieu a faites à Abraham. Dieu, lui, c'est un Dieu qui ne change point. Si Dieu a fait une promesse à Abraham, certainement ces choses-là vont s'accomplir. Il n'y a rien pour arrêter ça. Dieu change pas. Dieu, lui, il n'est pas un menteur, il n'est pas un trompeur, il n'est pas un illusionniste qui pète la broue puis qui essaye de faire la croix, puis juste pour mêler le monde puis tromper le monde. Dieu, lui, c'est la vérité. Puis quand il a écrit, il a donné une promesse, c'est resté par écrit, c'est sûr qu'elle va s'accomplir, la promesse d'Abraham. Même si la loi arrive 400 ans plus tard, c'est ça qui est le point qu'il faut retenir. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire aux Galatiens, aux gens de Galate. N'oublions pas que Dieu a fait cette promesse pour une seule personne. C'est un autre bon point qu'il faut retenir. C'est-à-dire pour Jésus-Christ, son Fils. Parce que on va comprendre un peu plus loin que la promesse d'Abraham était pour sa postérité, c'est-à-dire Jésus. C'était pas pour l'ensemble de l'humanité. Oui, l'ensemble de l'humanité va être béni dans sa postérité. Ça, c'est une autre parole que Dieu a faite. Mais la promesse de sauver par la foi a été faite à sa postérité, à Jésus. Fait que Dieu, quand il l'a fait, cette promesse-là, il visait son Fils qui était pour arriver 2000 ans plus tard. C'est quelque chose, ça, là. Dieu, il a un plan dans l'histoire, vous allez voir. dans Galates 3:16, c'est là qu'on est rendu, ça parle justement de ça. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Quand que Dieu il a fait la promesse à Abraham, il avait déjà l'idée de faire une promesse que son fils va recevoir. Il fallait que ça soit lui. Ça prenait quelqu'un de parfait pour pouvoir le recevoir. C'est Jésus. Il l'a reçu. Là, après ça, ça peut être distribué aux autres quand tu deviens en Christ. Ta, c'est Jésus. Ta postérité en signifiant le Messie. Le Messie. Jésus qui est un descendant d'Abraham. Non. C'est non pas aux postérités, parce qu'il y en a eu plusieurs descendants. Il y a plusieurs en Abraham, Isaac, Jacob. Jacob a eu 12 fils, fait que ça en fait des postérités. Sa postérité, ça visait une postérité, qui ça dit dans Galates 3:16, puis c'était Christ qui était le sujet d'hériter cette bénédiction. On va comprendre plus loin un peu pourquoi. Pour comprendre quelle est cette promesse, Dieu avait promis à Abraham de bénir sa postérité, c'est-à-dire son fils Jésus. Lorsque par la foi tu vas à Jésus pour recevoir le pardon, le Seigneur Jésus te donne la bénédiction d'Abraham. Tu la reçois en Christ parce que c'est lui qui l'a reçu. Fait que quand tu vas à Jésus puis tu fais qu'un avec Jésus, tu es pardonné, il t'a enlevé les conséquences de tes péchés, il t'a enlevé tes malédictions, puis en plus, il te donne sa bénédiction d'Abraham, qui est de recevoir le Saint-Esprit par la foi. C'est ça, la promesse d'Abraham, recevoir le salut. Il dit, mon juste vivra par la foi. C'est une déclaration donnée à Abraham avant que la loi vienne. C'était déjà, donc, décidé par Dieu de sauver le monde par la foi avant que la loi soit installée. Fait que quand les gens de Galates voulaient retourner à la loi, ils voulaient retourner à quelque chose qui était pour les remaudire. Puis c'est comme s'ils reniaient ce qu'ils avaient déjà reçu en Jésus, d'avoir reçu l'Esprit. C'est pour ça que dans les études antérieures, Paul leur a demandé, « Vous avez commencé par l'Esprit, vous voulez finir par la chair, en retournant par la loi. » Il dit, « Avez-vous reçu l'Esprit en pratiquant la loi ou par la foi? » C'est par la foi qu'il avait reçu l'Esprit. Donc, tout est dans la foi. Le salut est dans la foi. La réception de la bénédiction de Dieu, le Saint-Esprit. Parce que c'est ça que j'ai lu au début de le verset 14. Il dit, « La bénédiction d'Abraham a eu pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. » Ça veut dire quand, ça c'est au verset 14, Galates 3:14. Ça veut dire quand t'arrives que tu donnes ta vie au Seigneur, t'es rendu en Jésus-Christ, c'est là que tu reçois la bénédiction d'Abraham, puis ça dit, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est ça la bénédiction d'Abraham, recevoir le Saint-Esprit. Ça c'est d'autres parenthèses de la promesse de Dieu qui n'ont pas été écrites nécessairement à Abraham, mais dans les temps, les prophètes ont parlé que Dieu a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles, puis je leur donnerai un cœur nouveau, puis un esprit nouveau, j'écrirai mes lois dans leur esprit. Tous ces versets-là dans l'Ancien, c'était des versets pour viser la nouvelle vie qu'on aura en Jésus, cette bénédiction d'Abraham reçue à travers du Christ. Quand tu fais qu'un avec lui, tu reçois ce que Dieu avait promis à Abraham, le salut, c'est naître de nouveau. Sans passer par la nouvelle naissance, t'es pas sauvé. C'est ce que ça dit. Est-ce que Dieu était pour annuler une promesse faite pour son Fils, en faisant rentrer dans le monde la nouvelle loi, la loi de Moïse? Est-ce que c'était le but d'annuler la promesse faite, qui était déjà prévue d'être faite pour son Fils? Pas du tout. C'est deux choses complètement séparées. C'est comme pour brouiller les cartes. Ceux qui cherchent à justifier par leur propre mérite, ils se mélangent, ils veulent suivre la loi, puis ils se perdent. C'est parce que ils pensent de gagner leur ciel en pratiquant la loi, tandis que l'autre, c'est un cadeau que tu reçois par la foi. Quand tu regardes à Jésus, tu reconnais ton impuissance d'être sauvé, c'est là que tu le reçois. Paul mentionne que ce que Dieu promet, il l'accomplit, ça ne pouvait pas être annulé, cette promesse-là, par la venue de la loi. Dans Galates 3, 17, il dit « Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement, ça c'est avec Abraham, il ne peut être annulé, et ainsi la promesse rendue vaine, par la loi survenue 430 ans plus tard. » Fait que la loi n'annulait pas du tout la promesse de Dieu. Elle ne pouvait pas l'annuler, parce que comme qu'on a dit tantôt, l'apôtre Paul l'avait expliqué, quand qu'il y a, les humains font des contrats, il n'y a personne qui les renverse. Puis si un roi scelle de quoi, ça s'accomplit, il ne peut pas changer ça. Fait qu'imaginez le Dieu qui ne change pas, lui qui a promis quelque chose, il n'y a rien pour empêcher ça. C'est ça que l'apôtre Paul voulait amplifier pour démêler les gens de la Galatie. La loi n'a pas changé la promesse faite à Abraham. C'était une promesse garantie par serment. Dieu il a fait un serment. C'est une garantie. Puis dans Hébreux 6, le verset 13 à 18, ça l'explique, ce serment-là que Dieu a fait à Abraham. Et lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Quand je disais tantôt, ceux qui étaient sur la terre jurent par Dieu, puis devant Dieu, ils disent qu'ils vont en faire ça, 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 puis là, tout le monde croit ce qui est dit parce que c'est fait devant Dieu. Il y avait la crainte de Dieu. Nous, on jure, on fait un serment devant Dieu. Mais Dieu, il n'y a pas personne de plus grand que lui pour faire un serment devant lui en voulant dire, si jamais que Dieu me frappe, c'est ça que l'idée des serments. C'est devant Dieu, il s'engageait. Il y a ça que le monde aujourd'hui, quand on était jeune, on disait ça. Je jure sur la tête de ma mère. Ben oui, mais ça, ça n'a pas de bon sens. Tu ne m'as pas en garanti la tête d'un autre. C'était sur ta tête que tu faisais une garantie devant Dieu. Devant Dieu, tu disais, c'est ça, je le garantis devant Dieu que Dieu me frappe si c'est pas ça. C'est ça qui était l'idée du serment. Mais Dieu, il n'y en a pas de personne plus grand pour faire un serment. C'est ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 6, verset 13. Il jura par lui-même et dit, voici sa phrase que Dieu a dit, « Certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, y intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. C'est une espérance qui nous est proposée, garantie par Dieu. Il n'y a pas rien qui peut changer ça. Dieu dit que tu vas vivre par la foi. Puis ça, c'était distribué à travers Jésus. On reçoit le Saint-Esprit. T'es sauvé, tu marches avec le Seigneur. Lâche pas ta fermeté. Puis là, il est en train de dire aux gens de la Galatie, « Retournez pas à la loi. Vous allez retomber sa malédiction. » Puis il y a d'autres passages qu'on a vus puis qu'on va voir. Il va leur dire, « Vous êtes déchus de la grâce, séparés de Christ, vous qui cherchez à être justifiés par la loi. » C'est quelque chose. Puis il dit de ne pas se faire circoncire pour ne pas penser que tu accomplis la loi pour gagner ton ciel. C'est sûr qu'il y en a qui sont fait circoncire pour des raisons médicales, ça n'a pas rapport. Mais si tu fais ça dans le but de te dire que tu veux obéir à la loi, puis tu veux gagner ton ciel, tu viens de tomber sur la malédiction de la loi, parce que tu ne l'accompliras jamais au complet, cette loi, parce que c'est rendu impossible de la mettre en pratique, même si tu serais capable. Il n'y a plus de temps pour offrir des sacrifices, puis offrir les holocaustes, puis les tout ce qui est offert dans le temple. Il n'y en a plus. Fait, qu'est-ce que tu vas faire? C'est Dieu, il avait un plan quand il a fait que ça soit rasé. Il voulait que le monde arrête de penser qu'il pouvait encore se justifier par cette loi-là. Il était détruit à l'an 70, à peu près 40 ans plus tard, après la mort de Jésus. Pour dissuader les gens de la Galatie, Paul y affirme encore que l'héritage de la grâce ne vient pas de la loi, mais de la promesse. On voit ça au verset 18, dans Galates 3, 18. « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. » Fait que la grâce qu'on reçoit en Jésus d'être pardonné de nos péchés, puis de recevoir le Saint-Esprit, être sauvé, d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie, tout ça, c'est une grâce qu'on a reçue à cause de la promesse d'Abraham. C'est quand même fort que toutes les promesses du Créateur découlent d'une promesse faite à un seul humain, Abraham. Puis elle était destinée au Messie Jésus-Christ. C'est quelque chose, ça, qu'est-ce qui s'est passé là. C'est comme si Abraham avait d'entre ses mains le sort de l'humanité tout entière. Ça qui est appelé le père de la foi. Il a marché dans la foi, il n'a pas douté, il a cru en Dieu, il a attendu plusieurs des promesses de Dieu, mais la promesse du salut dans le Messie, la bénédiction qui viendra dans sa descendance, c'est-à-dire en Jésus, il l'a cru, puis c'est ça qu'on a vu dans Hébreu. Hein. Il dit, au verset 15, là, Hébreu 6, 15, il dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. C'est à cause que persévérer dans la foi que c'était rendu possible que la promesse soit découlée dans sa postérité. Imaginez qu'Abraham a rallongé la foi. Ça aurait eu plein de conséquences, puis Dieu savait tout ça d'avance. C'est pour ça qu'on peut affirmer aujourd'hui que nous avons tout à gagner en allant à Jésus-Christ. Amen.